Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ici Station Ozone, librairie Mola, pour accueillir l'une des plus grandes et fines observatrices de la vie politique française, ma consoeur et mon amie, ma collègue aussi, Catherine Ney.
Oui.
On peut accueillir et applaudir ce soir puisqu'elle est parmi nous et qu'elle a fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. Alors, pour ne rien vous cacher, on se connaît très bien, on travaille ensemble depuis longtemps.
On se tutoie.
On se tutoie, mais là, on va faire comme à l'antenne, on va se vous voyez,
exactement.
Catherine. À l'occasion de cette rencontre, ouais. Pour évoquer cet ouvrage, Secret de vie. Alors, c'est très différent des deux derniers dont on a eu l'occasion de parler aussi ici, qui étaient vos mémoires. Là, c'est un exercice dans lequel vous excellez. C'est l'art du portrait. Et ce sont donc des portraits, une trentaine au total, qui sont réunis dans ce livre. Vous dites d'entrée de jeu, et vous connaissant un peu, je trouve la phrase tellement juste dans votre approche, la naissance d'un portrait ou à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise, l'envie et même une certaine urgence. C'est comme ça que ça marche ?
Oui, oui, oui. Quand on m'a demandé, quand Jérôme Begley m'a demandé de venir faire des portraits, il me laissait libre. Et puis c'est vrai qu'il y avait des personnages. Je dis pas qu'il y avait des urgences, mais il y avait tout d'un coup une envie, en sachant que les personnages que j'allais rencontrer. C'était des gens qui, peut-être, représentaient un moule d'hommes politiques ou de pas politiques qui risquaient d'être cassés à l'avenir et qu'ils avaient sûrement encore des choses à dire et qu'ils avaient à la fois l'expérience, hein, l'expérience qui n'est pas pensée, qui c'est le vécu de toute une vie avec peut-être des échecs, des allers-retours, plusieurs vies. Et c'est la richesse de leur personnage, leur réussite aussi qui m'a motivée, oui, ça, c'est sûr.
Comment ça fonctionne? Il y a un moment où vous dites « j'ai envie d'aller voir tel ou tel acteur ou actrice de la vie politique, il se passe telle actualité, vous décidez ça entre vous et vous ?»
C'est bien sûr lié à l'actualité, mais par exemple, j'ai vu l'amiral de Gaulle parce que il allait avoir 100 ans, et là, il y avait une forme d'urgence, parce que ça, c'est sûr. Et je trouvais qu'il vit aujourd'hui, enfin, il est à l'hôpital des Invalides, et il parle peu, mais enfin, j'ai réussi à ce qu'il veuille bien me recevoir. Et il m'avait dit, je vous attendrai devant la porte, et ensuite, on montrera dans ma chambre, vous voyez.
Tout un programme.
Il est arrivé, mais il avait son déambulateur, et je le suivais, vous voyez, dans les couloirs. Et puis, je me disais, mais j'avais l'impression d'être avec... il ressemble tellement à son père, donc c'était assez intimidant aussi. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est assez seul. Il se plaint que ses belles-filles viennent un peu le voir, mais pas ses fils. Voilà. Mais ses fils disent qu'il a un caractère de chien. Ça peut arriver. Donc, vous voyez, c'est des histoires de famille. Mais quand même, quand on le rencontre, c'est quelqu'un qui porte l'histoire en lui et qui raconte très bien ce qu'a été une vie de fils du général de Gaulle.
Et ça n'a pas été drôle.
Mais ça n'a pas été drôle parce que c'était une famille où la madame de Gaulle n'aimait que son mari et n'avait pas l'instinct maternel et donc il n'a pas été un enfant cajolé. Et puis son père avait des exigences, il était sur une autre planète un peu, donc il voyait que c'était un homme extraordinaire qui aimait son fils, mais qui lui demandait, qui interrogeait peu son fils sur ce qu'il voulait faire. Et le fils a voulu exister à ses yeux, d'abord en s'engageant en faisant la marine, ce qui est quand même une caste un peu à part dans l'armée, qui avait fait une guerre formidable, hein, il est parti très tôt, et qui même a été, quand il est arrivé avec sa mère et sa sœur à Londres, ils ont pu retrouver leur père, et dans le fond, il a été le premier compagnon de la libération. Et donc, l'entourage du général de Gaulle disait, mais vous devriez nommer votre fils. Il n'a jamais voulu, parce que, parlant de népotisme, une chose qui n'était pas possible, mais s'il l'avait fait, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il serait le dernier compagnon de la libération. Et dans le fond, c'est lui qui aurait été enterré, quand il mourra, dans la crypte du Mont Valérien, vous voyez, c'est extraordinaire, et ça, le général ne l'a pas voulu. D'ailleurs, lui dit, moi, je préfère être enterré avec ma femme à Colombey, à côté de mon père. Mais c'est un homme, oui, qui s'est entièrement dévoué aussi après la mort de son père, d'abord à faire vivre et visiter la boisserie, et surtout à faire publier tous les notes et carnets, tout un travail en friche que lui seul pouvait faire, et c'est un travail absolument énorme. Alors, là, il est, il racontait que, enfin, plutôt, c'est quand il a fait, quand en premier visiter la boisserie, il y avait Jean Mauriac qui était le fils de François Mauriac, que vous connaissez, qui a voilà, ou combien ici, et qui était journaliste à l'AFP, qui avait été visiter la boisserie. Et il me l'avait raconté parce qu'il y avait un quart de journaliste qui avait été affrété pour voir la boisserie sans les De Gaulle. Et Jean Mauriac avait dit « Ah, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé être le fils de De Gaulle ?» Et le général amiral lui a dit « Moi, j'aurais voulu vous y voir, tiens. » Et j'ai fait une belle guerre, qu'il a dit. J'ai fait des choses qu'il sait. Et en plus, on m'a toujours pris pour un con, vous voyez. Et donc, ça a été qu'elle, oui, donc c'était cette vie-là. Voilà, en tous les cas, oui, quand il est revenu de la guerre, où il a failli mourir deux fois, ses parents ne lui ont absolument posé une question, aucune question.
Oui, dans l'ombre.
Il avait fait son droit, c'était ça, c'était normal.
C'était normal.
Oui, oui.
Et on sent quand même dans ce portrait que ça, ça n'a pas toujours été facile à dire.
Ah, mais il y a une amertume qui demeure, vous voyez, et ça, c'est sûr. Vous voyez, l'enfance blessée, d'ailleurs, dans mes portraits, il y a plusieurs enfants blessés et on en garde des séquelles, oui.
On parlait à l'instant donc de l'amiral de Gaulle. D'une manière générale,
oui.
C'est ce qui vous motive. Vous voulez trouver toujours la patte humaine. Et vous venez d'évoquer l'enfance. C'est oui. Souvent là qu'on va en trouver une bonne partie de cette patte humaine.
Oui, 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 oui. Qui vous donnerais-je comme exemple? Sûrement... François Pinault, qui est parti, vous voyez, un fils de petit village de Bretagne, 800 habitants aujourd'hui, le père qui a une scierie, qui est un taiseux, une mère qui ne sait pas exprimer les choses, enfin, et lui, il fuit cet endroit où il dit c'était une chanson de Brel le soir au dîner, quoi, vous voyez, qui était pesante et. On l'envoie faire des études à Rennes parce que
il est brillant,
parce qu'il est brillant. Que c'était comme ça toujours à l'époque. Il était repéré par le curé du coin qui disait faut l'envoyer. Puis qui s'est senti totalement ostracisé, regardé de haut par la bourgeoisie parce qu'il était un petit paysan. Et il m'a raconté que pendant des années il n'avait pas pu passer devant cet endroit chez les religieux où il avait fait ses études. Mais il se vengeait aujourd'hui en étant le patron du club de foot de Rennes, quoi. Voilà. Bon.
Et dans ce qui
m'intéressait assez peu parce qu'il me demandait.
Ah bon.
Il me demandait si j'avais vu que Rennes avait gagné le dimanche d'avant. Franchement, j'avais pas vu, quoi. Voilà.
Voilà. D'ailleurs, dans ces cas-là, on l'avoue à son oui. Interlocuteur. On dit ah bah oui, non moi le foot.
Oui, oui.
Ouais,
oui. Simple, non, faut pas faire semblant. Mais voyez, c'est comment cet homme est revenu. Son père est mort. Il a téléphoné à ses parents. Il s'est engagé en Algérie. Hein, il a pris, voilà.
Paris. Vous le racontez, il a été très, très marqué par les 30 mois passés en Algérie.
Très marqué par mes 30 mois en Algérie, parce qu'il se disait que 15 ans avant, c'était la guerre, qu'il voyait les ravages des Allemands en Bretagne, qui rentraient dans les fermes. Il dit, nous, on faisait pareil. Les choses. Il a vu des choses qui l'ont marqué. Il disait, l'occupant ne gagne jamais. L'occupant ne gagne jamais. Alors, on a envie de se le dire aujourd'hui pour des tas de raisons, ailleurs, oui. Et donc, il avait vu ça et il m'a dit, je suis revenu, j'étais plus le même. Bon, voilà, il revient, son père meurt et puis il vend la scierie et va travailler à Rennes chez un autre patron de scierie dont il épousera la fille. Et puis, voilà, enfin, bref, c'est pas... Et puis, surtout, il commence à faire du commerce du bois, et puis il y a toute la suite, mais qui est prodigieuse, quoi.
C'est un des portraits, enfin, moi, c'est un des portraits que j'ai trouvé extrêmement intéressant, très dense, avec un personnage très riche, très curieux aussi. On sait sa passion pour l'art,
qui n'est pas feinte, parce que souvent, il y a le snobisme, enfin, de trouver une œuvre non figurative, formidable, alors qu'on n'y comprend rien, mais bon, il faut l'avoir dans son salon. Lui, c'est pas du tout ça, parce que lui, il passe du temps avec, il va voir les artistes. D'ailleurs, Mathilde dit qu'il n'aime pas ça, parce qu'il veut les voir, il veut qu'ils expliquent ce qu'ils veulent dire, et voilà. Et c'est comme on apprend une langue étrangère, au fond, pour comprendre.
Et vous en parlez, enfin, vous expliquez qu'il entretient avec là un rapport profond, intime, secret, moins instinctif qu'il ne le dit, beaucoup plus savant. Il rappelle sur cet aspect-là, celui qui a été son grand ami, qui était Jacques Chirac, qui lui aussi ne voulait pas étaler ni sa science, ni cette curiosité particulière pour les arts premiers, en l'occurrence, mais on comprend bien en lisant ce qui a pu lier ces deux hommes-là.
Il parlait beaucoup culture, et Je crois que Jacques Chirac l'a initié à l'art africain, parce que Jacques Chirac, il connaissait beaucoup mieux les dynasties japonaises, chinoises, africaines, l'art africain. D'ailleurs, pour lui, un masque Dogon valait bien un Rembrandt, quoi, vous voyez. Donc, et il avait vraiment ce goût-là, alors que je ne pense pas qu'il soit allé au Louvre voir les peintres, vous voyez, du 17e, du 18e. C'est pas... Donc, c'était un personnage assez singulier, Jacques Chirac, de ce point de vue-là, parce qu'il lisait de la poésie, vous voyez, comme sous ses genoux, alors que souvent les députés, au contraire, amenaient Playboy, vous voyez, pendant les séances, mais c'était du temps où il n'y avait pas les caméras, et connaissait assez peu l'histoire de France, vous voyez, mais ça lui a permis d'avoir une vision et une connaissance des mondes ailleurs, et il comprenait très très bien les gens du Moyen-Orient, ça le fascinait. Et je pense que son opposition à la guerre en Irak, il avait vu tout de suite les ravages que ferait cette guerre, dont on porte encore aujourd'hui les conséquences.
Absolument. Voilà, ouais. Et donc, François Pinault, le portrait, oui. Vous l'avez intitulé « Homme libre oui. », en insistant, en disant « sa singularité, c'est sa liberté totale, on n'a pas de prise sur lui, personne ne connaît son emploi du temps, oui. Il ne passe pas des heures à dépiauter les dossiers, il se fie à son instinct extraordinaire ». Je crois que c'est un de ses amis qui témoigne comme ça dans le portrait de cet homme-là, mais voilà, ça fait partie parmi les portraits, on en parlait tout à l'heure, parmi ceux, moi qui en tout cas m'ont beaucoup plu, il y a celui-ci, parce que on se dit quand même quelle trajectoire assez extraordinaire et quelle liberté. Il y a un homme qui vous a marqué aussi, on le sent à la lecture, qui était en charge d'un chantier ô combien important, rebâtir la cathédrale Notre-Dame. Il est décédé il y a quelques mois, c'est le général Georgelin.
Oui, oui.
Lui aussi, vous l'avez rencontré, vous lui consacrez un portrait où on voit bien à quel point cet homme avait une rigueur et une discipline de vie. Absolument tout le temps.
Oui, c'était même... Enfin, c'était un grand croyant. C'était, moi, je dirais presque une sorte de saint laïque, vous voyez. Mais j'ai pas tout percé dans le mystère, mais vous voyez, cette voix forte...
Oui, vous dites une voix de poitrine, atout.
Oui, vous savez, dans les dîners où il y a le siècle, enfin, qui est un club où... les gens viennent à Paris, c'est une grande salle où il y a des tables. On savait toujours où il était parce qu'on l'entendait rire. Vous voyez, il y a une espèce de... Mais quand vous êtes militaire, il dit, moi, j'ai fait ma carrière parce que quand on a cette voix, on commande facilement, on vous écoute, quoi. On fait taire, on fait obéir. Mais c'était quelqu'un qui a été le chef d'état-major de Jacques Chirac et qui a fait tous les diplômes aux États-Unis, parlait très, très bien anglais... Et avait une connaissance historique absolument extraordinaire de tout, vous voyez. Et puis alors tout ce qui est les batailles, enfin, dans les dîners, ils vous racontaient Valmy, vous racontaient des choses comme ça, ce qui avait flanché, pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, il était empli de cette connaissance. Et puis Notre-Dame a brûlé et Emmanuel Macron a pensé à lui, alors qu'il ne le connaissait pas spécialement. Et c'est François Sureau qui lui en a donné l'idée, parce que quand il était justement chef d'état-major de Chirac, un jour à un dîner, il avait dit qu'il allait, lui, depuis faire un pèlerinage Paris-Chartres à pied. Vous voyez, ça veut dire qu'il partait le matin, et puis on marche, on fait 94 km, on marche 14 heures non-stop, quoi, en gros. Alors... Et alors, il passe l'itinéraire, la forêt de Rambouillet. Enfin, il y avait des tas de choses. Et alors, un jour, François Sureau lui dit, la prochaine fois, vous m'emmenez. Et d'accord. Donc, ils partent tous les deux. Alors, il y avait quand même la voiture du chef d'état-major qui l'attendait à l'arrivée parce qu'il ne pouvait plus marcher tellement il avait les pieds écorchés. Il faut quand même voir ce que c'est. Et ils étaient sur la route en pleine nuit. Puis, il y a des gendarmes qui passent. Et donc, ils leur demandent, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on va à Chartres. Ils disent, oh là là. Faux papiers, ça faisait quand même... Et là, quand ils ont vu que c'était le chef d'état-major de Jacques Chirac, ils se sont mis au garde-à-vous. Bon. Et ça changeait tout. Et je crois qu'il m'a dit avoir fait le voyage au moins une dizaine de fois. Oui, c'est quand même...
Et alors, les gendarmes...
Et les gendarmes, voilà...
Vous le dites, ils disent à Georgelin et à Sureau, il vous faut du courage, messieurs, pour faire cela. Et je leur ai rétorqué, non, messieurs, il faut avoir la foi.
Voilà, mais en quelque sorte, oui.
Ce qui résumait bien la démarche.
Et donc, c'est quelqu'un à qui on a confié cette... Mais il fallait, c'était une bataille, vous voyez, pour mettre la façon dont il a mis tout le monde au travail, où il a été lui-même vérifié, enfin ça, il y a eu des reportages sur ça, ça je le raconte pas dans le papier, mais il a été voir les forêts pour trouver les grands chênes qui pourraient, vous voyez, il a fait faire les outils à l'ancienne pour travailler le bois, comme... et il s'était investi de cette mission, c'était absolument formidable, tout en continuant, l'Élysée lui avait même pas donné une voiture de fonction, moi, je trouvais ça assez mesquin, il avait... alors il pouvait, il y avait des voitures, qui... mais alors maintenant, évidemment, avec la Cour des comptes à l'Élysée, en fait, il y a des choses qui sont plus permises comme avant, mais enfin quand même, je trouvais que il méritait. C'était quand même le général Georges Lain, et lui ne réclamait rien. Et l'idée que il y ait la première messe pour la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre prochain, de l'année prochaine, là, c'était, il vivait de ce projet-là, vous voyez, et il savait qu'il serait à l'heure, parce que un général, et alors le monseigneur Chauvet, qui était à l'époque l'évêque de Notre-Dame, me dit qu'il l'a rencontré, et le lendemain, à 6h du matin, le téléphone sonne, et c'est Georges Lain qui dit « Alors, Monseigneur, vous avez déjà célébré matine ?» L'autre s'est dit « Mais sur qui je suis tombé ?» J'ai dit « S'il fait un contrôle tous les matins à 6h, si j'ai fait mon travail ?» Et en fait, voilà, c'était... Mais il m'avait dit « Si tout de suite... » Même quand il y a des religieux, faut montrer qui est le patron, disait-il. Et là, faut parler comme ça. Et il avait montré, et voilà. Et moi, j'ai été très, très, très triste de ça.
Au cours d'une randonnée.
Oui, mais parce que s'il venait de, c'était un natif des Pyrénées de Comminges, dans le Comminges. Ouais, ouais. Et j'avais déjeuné avec lui fin juillet. Il m'avait dit, je vais aller marcher dans la montagne. Et moi, ce qui m'avait frappé, vous voyez, j'ai, pour une autre montagne, mais j'étais plus bas, à Megève, là cet été. Et j'avais vu que le soleil, vous savez, maintenant c'est très dangereux de faire de l'alpinisme et d'être en montagne, il y a des choses qui déjà, mais le soleil sur les gravillons, et eh bien par moment vous avez l'impression hein, de marcher sur du verglas. Et là, il était dans des sentiers escarpés, il a glissé et il s'est tué comme ça. Vous voyez, c'est horrible. Et alors, en plus, dans mon livre, vous voyez, il y a deux personnes qui sont mortes à 15 jours d'intervalle. C'est d'abord la. Hélène Carrère d'Encausse, qui est morte début août, et lui qui est mort 15 jours après. Voilà, c'était...
Hélène Carrère d'Encausse,
oui.
Qui est donc effectivement l'objet d'un des portraits,
oui.
D'un des
oui,
grands
oui.
Portraits.
Oui, oui.
Là aussi, on sent une admiration quand même. Vous, souvent, vous dites, j'ai besoin un peu de ce moteur-là. C'est quand même plus simple, ou en tout cas plus intéressant dans la démarche, d'aller croquer le portrait de quelqu'un qu'on admire oui. Un peu. Georges Lain, on le sent bien, car dans Coste, tel que vous l'écrivez, on sent aussi qu'il y a de l'admiration.
Oui, mais c'est un parcours et une qualité intellectuelle, et puis surtout sa mission, là. Puis moi, je la voyais, c'était une lutteuse, parce qu'elle est morte, elle avait 93 ans, mais tous les jours, vous voyez, évidemment, ceux qui sont autour d'elle l'appelaient la tsarine, parce que... Elle était, moi je disais, c'était un peu elle me faisait penser à la reine Élisabeth, parce que vous voyez, elle avait toujours ses gros bijoux, alors c'était des fantaisies, mais de très bonne qualité, vous voyez, comme on ne trouve plus d'ailleurs aujourd'hui, que lui offrait son mari, vous voyez, alors elle avait des grosses pampilles, des choses, des gros colliers, de voilà, et tous les jours, elle changeait de robe, vous voyez,
et... Donc il y avait cette élégance, par exemple.
Il y avait cette élégance, cette douceur, et puis à la fois une main de fer, vous voyez, pour tenir tout ça.
Dans une maison où elle n'avait pas été accueillie que par des applaudissements, quand même, hein. Ça n'a pas été...
Vous voulez dire...
À l'Académie.
À l'Académie, vous savez, il y a beaucoup de jalousie, de choses comme ça. Puis quand elle a été désignée pour succéder à Maurice Druon, il y a sûrement eu quelques pis.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Et puis, oui, voilà, c'est ça.
C'est le moins que l'on
puisse dire. Oui, oui.
C'est un chapitre que vous avez intitulé, d'ailleurs, pour rebondir sur la comparaison avec la reine d'Angleterre, notre queen Hélène Carrère d'Encausse.
Oui, voilà. Oui, oui.
Ça n'a pas été choisi par hasard. Il y a, parmi les personnages, là, on va revenir chez le destin d'un homme, c'est Maurice Lévy, qui est un portrait que j'avais lu quand il avait été publié dans la presse, que j'ai retrouvé là, et que j'ai relu avec bonheur. j'ai envie de dire, mais quel monsieur, quoi. Enfin, à la fois dans une intelligence et puis aussi dans une modernité, dans une générosité. Dans un... On a envie de le rencontrer. En fait, quand on termine votre portrait, on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais passer, ne serait-ce que 15 minutes avec cet homme-là à discuter.
Oui, et c'est quelqu'un qui est assez discret, il se montre pas beaucoup et qui que tout le monde vient conseiller et tout ça. Mais moi, ce qui m'avait intéressé dans le parcours, c'est que lui, petit-fils de rabbin, juif marocain, est arrivé à Paris, a fait une école d'ingénieur, puis a commencé à faire de l'informatique dans une petite boîte, puis il a été sélectionné pour une boîte un peu plus grande, et puis il avait 28 ans, et le patron lui dit « je vais vous nommer patron ». Et là, il a l'intelligence de dire « si moi qui viens d'arriver, il me met patron », ça veut dire que les autres sont vraiment nuls. Donc, faut pas travailler dans une boîte où je suis considéré comme étant le meilleur. Et c'est là qu'on lui a que quelqu'un lui a dit qui était à Publicis. Je viens d'entrer à Publicis. Je connais rien à l'informatique.
Comment? Le secrétaire général de Publicis.
Voilà, le connaît. Lui dit est-ce que tu veux venir à Publicis? Voilà.
Alors vous rapportez la proposition. J'ai pris la responsabilité de l'informatique. Je n'y connais rien. Lui dit cet homme-là.
Oui.
Voulez-vous venir vous casser la gueule avec moi?
Oui.
Et donc là
c'est irrésistible.
Oui, Maurice Lévy,
voilà, il y va, Et il est reçu par Marcel Blustin-Blanchet, qui a dû être séduit par, c'était quand même un grand beau type, vous voyez, jeune, comme ça, enthousiaste, et qui lui dit, un jour vous me succéderez. Alors est-ce qu'il y pensait vraiment, vous savez, on dit, c'est des choses qu'on dit, alors il revient, il dit à sa femme, il m'a dit ça, il lui a dit, oh, il doit se dire ça à tout le monde. Donc il dit, c'était une façon de, voilà. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans son parcours, lui, c'est vrai qu'il a monté tout à fait le système informatique et tout était mis sur des, comment ça s'appelle, sur
des disquettes
et tout ça.
Ouais, bon. Des sauvegardes informatiques.
Oui, des sauvegardes informatiques. Et puis arrive l'incendie de
1972,
vraiment l'immeuble Publicis est en feu. Et il avait fait faire des coffres pour mettre les disquettes. Et trois jours avant, il avait fait venir quelqu'un qui contrôlait les fermetures de coffres, qui lui a dit, quand vous partez, un conseil, enlevez les clés, fermez la clé, enlevez. Parce que s'il y a un incendie, eh bien les clés fondent et on ne peut plus les ouvrir.
Et il sauve.
Et là, le soir où il y a le feu, il prend les clés dans sa poche, il part. Voilà. Et lorsqu'il y a l'incendie, bah, il est le premier à venir dans la nuit en demandant et pour sauver. Et cette boîte, alors que l'immeuble était complètement cassé, donc ils ont pu reprendre, mais 8 jours après, enfin, avec les équipes disséminées. Bon, alors quelques temps après, pour le remercier, Marcel Blustin-Blanchet lui veut le nommer. D'ailleurs, j'ai oublié le nommer. Et là encore, il dit non.
Oui, deuxième fois qu'il dit non, ça
dit non.
C'est important quand même.
Oui, et il dit non parce que c'était trop tôt et que avant d'accepter quelque chose, il voulait réorganiser la réinstallation du groupe, voir tout le monde. Et une fois qu'il connaîtrait tout le monde, qu'il aurait vu tout le monde, qu'il aurait jaugé tout le monde, là il accepterait quelque chose. Et c'est, voilà. Eh bien, je trouve qu'avoir si jeune, vous voyez, cet instinct pour ça veut dire que, vous voyez, dans. On peut aussi, il y a la chance, et puis on peut aussi se créer son destin quand on a, le sens des autres, quand on a un instinct psychologique qui lui permet, vous voyez, aujourd'hui d'ailleurs, de conseiller des gens. Et il dit tous les grands deals où on dépense des milliards, c'est toujours des histoires d'hommes. Voilà, c'est des. On se parle pas. Voilà.
La patte humaine.
Et voilà. Ouais.
Et là, vous racontez très bien. Alors, à l'époque, Marcel Blustin-Blanchet ne voulait pas que Publicis fasse des campagnes politiques.
Oui.
Il disait, je peux garantir la qualité d'un produit, je peux pas garantir les promesses d'un candidat.
Oui,
Oui. Et puis, vous rapportez aussi, parce qu'il y a un autre personnage que côtoie forcément Maurice Lévy, c'est Jacques Séguéla, qui préparait la campagne de François Mitterrand. Il me disait, toi, tu es un informaticien, disait-il à Maurice Lévy. Et je lui répondais, dit Maurice Lévy dans le portrait que vous lui consacrez, et toi tu es un pharmacien.
Oui. Bon, voilà. Vous voyez, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que connaissant sa manière de faire de la pub, quoi, eh bien, lorsqu'il y a eu les jeunesses, les JMJ, enfin, et que le pape Jean-Paul II venait à Paris, Monseigneur Lustiger est venu lui demander d'imaginer une campagne pour ses journées à lui. Vous voyez, donc. Donc ils avaient fait des affiches et tout un tas de slogans, et puis c'était montrer la tour Eiffel avec une croix, vous voyez, comme si c'était une croix. Et il avait été montré ça à Lucigé qui avait dit « Oh non, alors ça, ça fait trop cateau. » Alors on dit « Mais mon vieux, qu'est-ce que tu veux ?» Et puis finalement, il n'osait pas dire oui, parce qu'il se disait « Voilà, j'ai demandé un avis, puis Publicis, c'est cher. » Et là, il y a eu un... Enfin bref... Votre budget très élevé. Donc, et il lui a dit « Mais non, c'est gratuit. » Ah ben, alors, ça a changé tout. Alors voilà,
La phrase que vous racontez, parce que moi, c'est tout ça est très savoureux. Oui. Votre budget est trop élevé, Dieu y pourvoira, lui dis-je, et je ne veux pas d'honoraires. La classe complète et intégrale. Donc vraiment, parmi
et
les
encore,
portraits...
vous voyez, il a été l'homme, là je l'ai vu récemment, qui lui travaillait depuis longtemps à la réconciliation israélo-palestinienne, qui avait réussi à amener au bord de la mer Rouge, 40 Palestiniens, 40 Israéliens, pour se parler, il y avait une fête, enfin c'était 80, hein, 40 et 40, mais enfin c'était il y a 3-4 ans, vous voyez, et lui, et il avait dit au pape François, qui lui avait demandé aussi un service de venir à Rome pour une commission, il lui avait dit, vous devriez, vous êtes le seul à pouvoir réunir Netanyahou, les Palestiniens, là, voilà. Et le pape lui a dit, ah oui, ça serait bien, puis il y avait un prêtre derrière lui qui lui a dit non, c'est pas notre marché intérieur, ça, voilà.
Alors, dans un autre style, parce que c'est ça qui est très agréable dans ce livre, c'est qu'on n'est même pas obligé de les lire dans l'ordre, d'ailleurs. Hein. On peut très bien aller picorer, etc. Moi, basiquement, j'ai pris de la première à la dernière page, mais on peut aussi faire tout à fait autrement.
On peut commencer par la dernière.
Et remonter. Ouais. Et alors, oui, dans un autre style, et j'avoue que ça m'a bien fait sourire, voire rire, c'est le portrait que vous consacrez à Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. « Cadet Roussel en sa maison », c'est le titre du portrait. Où là, on sent quand même que... C'est pas rendez-vous en terre inconnue comme l'émission de télévision, mais pas très loin, Catherine, puisque vous partez au siège du parti, place du colonel Fabien. Et là, vous dites... c'est des formules qui n'appartiennent qu'à vous, ça. Hein. Oui. C'est comme partir vers une planète en voie de disparition, mais dont les vestiges demeurent.
Ben oui, parce que quand vous voyez, quand on a connu... Enfin, moi, quand j'ai débuté en journaliste, quand on disait on allait au colonel Fabien, on se disait, est-ce qu'on en ressort quand on y va, quoi. Parce que c'est très... Il y avait cette immense... immeuble en ondulé, en verre, vous voyez, qui est devenu depuis, mais voilà, une fournaise l'été et une glacière l'hiver, vous voyez, ce qui reste du PC n'a plus les moyens d'entretenir ni le chauffage, vous voyez, c'est très compliqué. Et puis il avait fait, donc ça devait symboliser un dos de femme, et devant il y avait le dôme, vous voyez, d'ailleurs il a fait la même chose au Havre, qui est l'architecte. Et de ce dôme qui devait représenter un ventre de femme fécond, vous voyez, où il y avait la réunion du bureau politique et du politburo. Voilà, alors ça, c'était, vous voyez, l'imaginaire communiste à l'époque. Mais quand on y vient aujourd'hui, on voit que quand même, les escaliers en béton sont quand même pas mal abîmés. Puis on rentre dans un univers, là où il n'y a pas un chat, quoi. Il y a deux plantons qui vous disent à peine bonjour. Et c'est toutes les couleurs pommes de terre, vous voyez. Vous entrez dans un truc. Et alors, donc, on monte à l'étage et on trouve un homme assez pimpant. Et qui est là, en compagnie du fils de Georges Marchais, qui est très joyeux, vous voyez.
C'est un homme heureux, Fabien Roussel. C'est ça.
C'est un homme heureux. D'ailleurs, quand on téléphone, quand on a son numéro de téléphone, alors c'est un petit voix qui dit c'est mon papa, il est pas là. Enfin, un feu d'enfant. Alors je lui dis ah oui, c'est votre petit garçon qui voudrait. Ah, il me dit ah oui, c'est mon Mimile. Enfin, aujourd'hui, il fait des études de géographie. Il a du poil aux pattes, quoi. Il a 22 ans, mais il l'a gardé, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a une famille recomposée. Qui a épousé d'abord une Comorienne, dont il a eu des jumeaux, puis il a divorcé, puis il a deux autres enfants, enfin bref, c'est une famille recomposée, voilà. Et je lui dis, la Comorienne, oui, vous l'avez rencontré en partant à l'étranger. Il dit, non, je l'ai rencontré dans le 18e arrondissement. Mais il a l'air de mener, on a envie de lui demander un secret, quoi. Pour lui, la famille composée, c'est le bonheur toujours avec tout le monde, vous voyez. Et alors donc, c'est pareil, il a dit, bon, la vie, c'est des joies simples. Alors, on connaît sa formule, le bon vin, le bon fromage, etc. Et puis alors, il me parlait et il me dit, puis vous savez, le plaisir est de gauche.
Ouais, et alors oui, vous rapportez très bien ça. Oui. Le plaisir, c'est de gauche, c'est le droit, au bon, au beau, oui, au propre, à la tranquillité, au voyage, aux vacances. Oui. C'est ça, ma gauche. Et c'est ça qui me rend heureux. Ça, c'est ce que vous dit, oui, Roussel. Ouais. Et entre parenthèses, vous, juste derrière, hein, vous indiquez, mais que c'est-il de la droite ?
Oui, c'est ça. Il n'a pas été en reportage, vous voyez. Apparemment. Bon, mais voilà. Non, mais je veux vous dire que... Mais c'est un personnage sympathique, comme ça. Mais quand vous lisez son programme, il est communiste. Hein. Ah oui, parce qu'au-delà de 500 000 euros, il prend tout à tout le monde. Vous voyez ? Et puis, non, c'est quand même... Mais c'est un personnage qui à la fois fait survivre une idée communiste qui est en déshérence, mais que l'idée que le communisme et le bonheur, ça, vous voyez, quand j'ai commencé dans mes études de journaliste, j'aurais pas parié qu'on trouve un jour un patron du Parti communiste comme lui, quoi.
Après, la dernière phrase du portrait, vous ramenez les choses sur terre, j'ai envie de dire. Fabien Roussel sait que le bonheur n'est pas pour demain. Bon, voilà.
Oui, mais l'espérance, c'est ce qui compte. Voilà.
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Parmi les... Alors, il y a Gérard Larcher aussi, qu'on retrouve avec à la fois de la bonhomie. Moi, il y a... Parce que souvent, on se marre quand même quand on lit les portraits à la fois que vous publiez dans la presse, qu'on retrouve ici sous la forme de cet ouvrage. Il y a quand même des formules qui sont extraordinaires. Je ne sais pas s'il ne les confie qu'à vous, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous arrivez à les capter et à les leur faire dire. Il reconnaît lui-même, Larcher, quand il y a un truc compliqué, moi, je fais le bœuf. Comprenez, moi, je ne bouge pas, j'attends de voir. Ça définit bien le personnage politique.
Ouais. Bah, oui, quand il voit quelqu'un, il dit « qu'est-ce que t'en penses ?»
Mais il ne se dévoile pas, il dit rien.
Il dit rien, il attend de voir.
Ça conduit à la présidence du Sénat, ça.
Ça conduit, oui, d'ailleurs, le Sénat, il incarne le Sénat. Il n'y en a pas d'autres qui puissent, vous voyez. Mais le Sénat, c'est une maison qui travaille, où il y a de l'ordre. Et c'est quelqu'un qui est en campagne toute l'année. C'est-à-dire
y compris quand il chasse.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui.
Vous racontez ça, oui. Je ne sais plus qui... C'est Retailleau qui témoigne, qui dit « Qui n'a pas vu Gérard, ce fou de chasse, arpenter un champ de chaume, discuter pied à pied avec des agriculteurs ? Je peux t'imaginer l'ampleur de son énergie et combien il aime cheffer. » En fait, ce que vous décrivez là, c'est un animal politique qui, sous des apparences très bonhommes, est extrêmement actif.
Ah oui, oui. Puis ça a été un grand vétérinaire qui était aussi le vétérinaire de l'équipe olympique de course,
d'équitation.
D'équitation. Et quand les chevaux devaient partir, on lui disait « tournez le dos ». Et on faisait le cheval, il entendait le cheval marcher sur des pavés, et il savait à l'oreille s'il avait une foulure, un truc comme ça. Parce que, donc un type
sacrée expertise.
Un type qui sait où sont les foulures d'un cheval, vous comprenez qu'en politique, ça amène des choses que les autres ne peuvent pas. Oui.
Je crois que dans le portrait, alors, je ne sais plus qui témoigne de cela, mais qui dit Macron, c'est l'anti-Larcher. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression, effectivement, de rencontrer le contraire de l'actuel président de la République.
Ah, ça, oui.
Je parle pas que de l'aspect rond qu'a moqué notre camarade Nicolas Canteloup pendant des années, mais...
Oui, mais Larcher, c'est... Vous voyez, c'est... D'abord, il est très intelligent, mais il y a une densité...
Pas Macron.
Il y a une Comment ?
Pas Macron.
Mais très intelligent, mais je dirais que c'est une intelligence perchée.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez,
oui, oui.
Bon. Okay. Tandis que lui c'est les tripes. Voilà,
c'est un élu de territoire.
C'est un élu de
territoire. À la différence, c'est ça que je comprends d'Emmanuel Macron, quoi.
Oui, qui ne connaît pas... Qui a été élu sans connaître la France, ça, c'est vrai.
Bien, ben voilà. Oui. Là, voilà, ça c'est dit ça.
Ben, non, mais ça il l'a dit lui-même. J'ai appris à connaître les Français, mais la France.
Quel est parce que je me suis quand même posé la question. Alors on a pas parlé de Claude Malhuret, d'Alain Bauer, de Macky Sall, d'Alain Mérieux, évidemment.
Oui, oui.
Quel est le portrait que vous auriez adoré faire et puis pour X raisons ça n'a pas été possible. Je dis bien que vous auriez aimé vraiment adoré faire. Il y a toujours dans la carrière d'un journaliste, d'une journaliste, malgré un carnet d'adresses aussi fourni que le vôtre, le truc qui se fait pas. Quel est celui qui manque ou celle qui manque là dans ces pages, dont vous dites ah quand même, j'aurais vraiment aimé. Vous les avez tous eus.
Oui, moi celui qui m'a le plus impressionné. Alors évidemment, je regarde ça aussi avec un regard adolescent parce que c'était mes débuts, c'était Pompidou. Et là, d'abord, moi, je l'ai connu, enfin, c'était la dernière, en 68, quoi. Il allait démissionner. Mais je l'avais vu à l'Assemblée, la façon dont ce charisme compact, quand il arrivait dans les couloirs de l'Assemblée, vous voyez, les députés se rapetissaient devant l'autorité naturelle, vous voyez. Et moi, il m'impressionnait parce que, alors que le général de Gaulle parlait de la politique de la France, son message universel, lui disait tout ça, ça tiendra à une seule condition, c'est que la France soit une puissance économique. On aura beau dire après, et on peut pas dire, voyez, si on veut tenir un rôle, faut être une puissance économique. Et lui, il pensait que la plus grande des révolutions, c'était de donner du travail aux gens et qu'ils soient bien payés. Vous voyez, et la gauche trouvait ça, mais d'un conservateur. Trouver ça ringard, voyez, voilà, les 68 est interdit d'interdire, en fait, tout ça. Et donc, c'était à la fois cet homme qui avait ses idées simples, qui les mettait en œuvre, et puis qui a été stoppé par la maladie. Parce qu'en réalité, le général de Gaulle s'en est séparé après le succès de mai 68. Je crois que ça faisait 6 ans qu'il était Premier ministre. Et on l'avait vu revenir en septembre. Il était il avait pris du poids. Je me suis dit, bon, il s'est reposé, il en avait besoin et tout ça. Et puis en fait, il avait fait des analyses de sang à Carnac. Et on m'avait dit déjà. Et on a vu, vous voyez, j'étais très fière parce que j'étais à l'Express et j'avais été l'interviewer pour l'Express. Et il était très aimable, il allait être élu. On sentait comme ça. Enfin, on avait envie de lui parler, de toutes les choses de la vie au fond. Et puis il a été élu. Et alors il y avait eu l'affaire Markovitch entre temps qui l'avait beaucoup meurtri parce que c'était des gens qui ont voulu le tuer pour préserver De Gaulle et qui en fait l'ont amené au pouvoir plus vite et ont fait partir De Gaulle. C'est ça qui est extraordinaire.
Il y a un livre qui est sorti il y a peu d'Harry Gatignon sur le sujet. Ouais.
Et donc, tout de suite, quand il est devenu président, il avait changé. Alors, il y avait la gravité de la charge, mais il était malade déjà. Et donc, il n'a pas pu donner. Moi, je pense qu'on n'a pas eu de chance parce que je pense qu'il aurait été un très grand président.
Dans ces portraits-là, il n'y a pas Emmanuel Macron, il n'y a pas François Hollande. Les deux,
mais j'en ai parlé dans mes derniers livres,
oui, c'est vrai. Mais du coup, faire un portrait, non, ça vous a pas tenté ou c'était pas possible?
Je vous l'ai dit, vous voyez, il faut là dans ces portraits, j'ai choisi des gens que on peut pas se forcer, dont on se dit, vous voyez, c'est agréable d'admirer. Bon, mais je peux pas dire que, que François Hollande m'inspire, je le dis franchement, voilà. Parce que je trouve qu'il a fait, il a pris des décisions qui, vous voyez, comme le non-cumul des mandats, la haute autorité de la transparence, il a cassé un écosystème, vous voyez, il a fait. Politiquement, on en mesure les effets aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, il est en. J'ai pas, peut-être que. Mais c'est pas un portrait de 15 000 signes qu'il faut faire. C'est partir, c'est d'où ça vient.
C'est
un livre, voilà.
Qui sait là, encore une fois, je disais, on sourit beaucoup. Alors, il y a aussi forcément un personnage sur lequel vous êtes arrêté. Vous lui avez consacré un portrait. C'est celui qui est redevenu le maire du Havre, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Là, c'est une énergie. Mais c'est une énergie. Puis alors, vous décrivez ça très très bien. C'est aussi un obsessionnel, un peu du rangement, je crois, de l'ordre dans son bureau. Parce que souvent, les lieux vous marquent, ils nourrissent énormément les portraits. Ils disent des choses aussi, les lieux. Et oui, je crois que ça vous a marqué, ça.
Oui, parce que d'abord, le Havre, c'est une ville. Si vous connaissez, c'est quand même avec des grands espaces. Moi, j'avais vu ça en noir et blanc, les photos, je trouvais ça sinistre, ces immeubles. Mais quand il y a du soleil, comme ça a été fait, je l'ai appris, il y a eu des limons qui viennent de la Seine et il y a des pépites d'or dans le. Donc, c'est des immeubles qui. Donc, c'est un site et puis il y a la mer derrière. Bon, et puis il y a cette mairie qui est tout en hauteur avec une tour de. C'était de l'architecte Perret qui a aussi fait Amiens, la gare d'Amiens. Et lui, lorsqu'on a été le voir avec les grandes voix, on avait pris le train pour aller le voir.
Ouais, l'émission d'Europe 1.
On avait été le voir. C'était la fin du Covid, vous voyez. Bon. Et quand on est arrivé, il venait de quitter depuis 3 mois Matignon. Il était auréolé. Et puis, il avait encore... Il n'avait pas eu tous ses pépins de santé. Et donc, on sentait qu'il avait quelque chose d'assez magique, vous voyez. Bon. Et on sentait que dans cette mairie, on avait l'impression qu'il était, je sais pas, qu'on était une principauté, vous voyez. Et que les gens qui étaient à son service, qui étaient tous masqués, avaient un bonheur de travailler avec cet homme. Vous voyez. Et alors, on l'a attendu dans son bureau, qui était tout, ah oui, très très bien rangé.
Ah, vous dites oui, il y a absolument. Oui, oui. On comprend que l'occupant est un homme d'ordre, ah, un oui. esthète. Sur le bureau, rien ne traîne.
Oui, pas de poussière, rien.
Voilà. Tout est carré, tout est rangé.
Voilà. Et il était arrivé, et je trouvais vraiment qu'il avait un charisme assez extraordinaire. Et on avait fait. Déjà, il avait perçu, enfin, moi, j'avais compris qu'il serait candidat, s'il le peut, plus tard, mais pas tout de suite, en tous les cas, pas en 2022, et qu'il éprouvait à l'égard du président, mais sûrement de la reconnaissance, parce qu'il l'avait nommé comme Premier ministre, et puis à la fois pas mal de méfiance aussi.
Alors, vous dites, en 3 ans, on compte les fois où ils se seront vus en tête à tête, sur les doigts d'une main, et les réunions se faisaient toujours à 4. C'est-à-dire, il y avait le président de la République, le Premier ministre, et leurs deux directeurs de cabinet.
Ah oui, il l'a très peu traité, son Premier ministre. Mais il ne savait pas que ça se faisait, vous voyez, parce qu'au moins... Et donc, bon, là, il fait son mouvement. Bon, mais il a eu aussi à gérer, quand même... quelque chose qui est une transformation physique, quoi. C'est aussi difficile.
Hein,
je pense que ça y est, la mue est faite et que il est. Enfin,
Pour vous, il n'y a pas beaucoup de doutes sur la candidature d'Edouard Philippe.
On est à 3 ans et demi, on peut pas savoir. Je pense qu'il en a l'envie, qu'il le marque pas assez d'ailleurs, parce que je trouve qu'il devrait pas plus parler. Et puis, comme le disait, je crois que c'était Richard Ferrand qui a dit, mais quand on s'appelle un mouvement horizon, on sait que l'horizon, plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Vous voyez. Alors il a des députés. Enfin, aujourd'hui, la plupart des députés Renaissance ont plutôt envie de venir chez lui, ceux qui sont dans l'aile droite du groupe. Mais c'est un homme en devenir, vous voyez. Mais ce qu'a très bien compris Jean Castex, lui, dont je dresse aussi le portrait,
absolument,
c'est qu'il fallait exiger dès l'entrée de voir le président et en tête à tête, et pas de s'embarrasser du secrétaire général, de se parler en homme comme ça.
Et finalement, Castex, qu'on imaginait, qu'on ne voyait que comme un très haut fonctionnaire, a eu ce réflexe très politique de dire ça se passera comme ça avec moi.
Ah oui. Et donc il avait une autorité et il a fait tout ce que le président ne faisait pas. C'est-à-dire que il a fait énormément, je crois quelque chose comme 350 déplacements dans le pays. Et quand il arrivait, il disait quel est le projet qui est encalminé depuis 15 ans, du petit au plus grand, vous voyez. Et il essayait de voir et en suivant les dossiers. Mais moi j'avais été le voir, j'ai fait le papier. Alors qu'il allait quitter Matignon, c'était après la réélection du président, et il y avait les législatives. Il aurait voulu, le président, qu'il fasse la campagne pour les législatives. Il disait, mais moi, je ne vais pas être le vainqueur des législatives pour après m'en aller. Il ne voulait pas. Puis surtout, il voulait partir. Il en avait marre.
Il faut dire qu'il a géré la crise sanitaire.
Oui.
Il vous dit, quand le président vous a sollicité pour être Premier ministre, c'était un choc, vous avez dû avoir mal à l'estomac, lui demandez-vous. Et il vous répond, madame, j'ai eu mal à l'estomac pendant 2 ans, j'ai été nommé à Matignon à ma grande surprise dans un contexte de crise sanitaire dont on ignorait l'issue avec un seul mot d'ordre, qu'elle n'hypothèque pas l'avenir. On ne peut pas être populaire en France en fermant des bars et des restaurants. Voilà, c'est cela qu'il a géré.
Oui. Mais ce qui est drôle, vous voyez, il s'en allait. Alors, Matignon, il y avait déjà... Et puis il me dit venez sur le balcon. Bon. Et alors il y avait montré le jardin de Matignon et puis qui est magnifique avec une pelouse. Et il me dit j'ai demandé au jardinier vous arrosez avec quelle eau. Et les jardiniers Monsieur le Premier ministre la ville de Paris. Ah, il dit non vous voyez parce que c'est quelqu'un qui fait des fiches sur l'histoire sur des dossiers surtout. Il dit vous savez le boulevard Saint-Germain. Au 18e, ça s'appelait la Grenouillère, c'était un marécage. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait de l'eau sous Matignon. Il faut faire un forage. Il a fait faire un forage, on a trouvé de l'eau, et depuis, Matignon peut avoir une pelouse verte avec voilà. Mais moi, je me dis, vous voyez, que c'est pas Balladur ou Jospin qui aurait pensé à ça, à Matignon, et que il faut avoir été né dans le Gers, avoir été maire de Prades, pour savoir le prix de l'eau, voyez. Voilà. Et lui, il a fait ça, voyez.
Et ça vous a bien plu, ça.
Et bien, moi, ça m'a plu parce que voilà, c'est, je me dis que c'est un homme qui, à mon avis, il pense et puis oublie, mais enfin, il pense de temps en temps aussi, et qui sera peut-être dans la course.
Merci beaucoup, Catherine. Alors, j'insiste, on a évoqué plusieurs personnalités dont vous faites le portrait. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Oui. Vous venez de toucher un mot sur le portrait d'Édouard Balladur. Il est présent dans ce livre. Oui. Il est délicieux. Il ne faut pas le louper. Il y a Claude Malhuret, évidemment. Il y a Bourlange. Enfin, il y en a en tout une trentaine. 30.
32.
Et puis, comme vous adorez ça, il y aura peut-être un deuxième tome, comme pour les mémoires. Hein.
De portrait, je sais pas. Non, je ferais plutôt un livre.
Peut-être sur le président de la République. Allez savoir. Merci beaucoup, Catherine. Merci.